Penser l'islam politique avec Gilles Kepel et Pierre-Jean Luisard. J'ai invité aujourd'hui Gilles Kepel, qui publie « Prophète en son pays » et Pierre-Jean Luisard, auteur, entre autres, de « La République et l'Islam aux racines du malentendu », pour qu'il nous éclaire sur la généalogie, la géographie et les diverses formes de l'islam politique. Mais l'actualité immédiate a bousculé mon ordre du jour. L'actualité immédiate, c'est-à-dire, bien sûr, l'attaque perpétrée par le Hamas sur le sol israélien. Il me faut donc commencer par là. Comment interprétez-vous cet événement inouï, Gilles Kepel ?
Malheureusement, cher Alain Finkielkraut, ça n'a pas bousculé l'actualité, ça a renforcé exactement la démonstration que, aussi bien le travail de Pierre-Jean Luisard dans une perspective historique que le mien, plus contemporains ont essayé de faire, c'est-à-dire analyser comment fonctionne aujourd'hui l'islam politique, jusque et y compris dans ses formes les plus violentes et les plus terrifiantes. Tous les Français ont eu l'expérience des atrocités commises par Daesh sur notre territoire, et en particulier de cette scénarisation des mises à mort qui avaient lieu en Syrie, d'exécution d'otages, etc. Ce qui est bien sûr le plus frappant, dans les images qu'on a tout de suite vues de la razzia, j'utilise ce terme à dessein, j'y reviendrai dans un instant, du Hamas à travers la frontière sécurisée à coups de milliards de dollars du sud d'Israël, ce sont les exécutions sommaires, la capture des otages rapportés ou ramenés ensuite dans les tunnels à Gaza, etc., etc. Alors, il faut le situer un petit peu en perspective, et Pierre-Jean Luisard, qui est beaucoup plus historien que moi, le fera bien mieux, mais ça s'est passé le 7 octobre, le samedi 7 octobre, au moment du début du Shabbat des Juifs. Et c'est 50 ans jour pour jour après la guerre d'octobre 73. C'est-à-dire la guerre d'octobre 73, dite hier guerre du Yom Kippour ou du Ramadan, c'était celle qui avait, dans l'esprit des masses arabes et de leurs dirigeants à l'époque, permis de laver l'affront, la défaite de la guerre des six jours de 67. Mettre ça en œuvre un demi-siècle jour pour jour après, c'est aussi une volonté de reprendre le pouvoir symboliquement sur les choses. Ça se produit à un moment aussi très précis, qui est celui où, pour la première fois en Arabie Saoudite, deux ministres israéliens ont été reçus officiellement. Et on voit bien que ceux qui ont exécuté les choses et leurs commanditaires probables ont aussi, et peut-être surtout, voulu faire dérailler le processus de paix israélo-palestinien qui s'étendrait désormais à l'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui devenue une superpuissance régionale en s'émancipant en particulier des États-Unis dans une certaine mesure. Ce n'est plus la station-service de l'Amérique, c'est un pays sous la houlette du prince Mohammed bin Salman qui négocie avec la Russie, qui négocie avec la Chine, etc. Et les Iraniens ont vu là un très grand danger, je pense, parce que ils se sont dit que si, comme c'est le cas pour les Émirats d'ores et déjà, l'Arabie Saoudite bénéficiait aussi d'un soutien militaire israélien, eux-mêmes seraient en situation difficile. Alors, aujourd'hui, donc, par-delà l'horreur de ce spectacle, évidemment, on a aussi des choses qui se sont ajoutées depuis les 50 ans de l'offensive arabe contre Israël à l'époque, en 73. La première, c'est que on est passé par l'horreur de Daesh qui a envahi les réseaux sociaux. Et cette guerre, c'est aussi une guerre des réseaux sociaux et c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, fait également écho au 11 septembre, de même que la puissante Amérique avait vu, entre guillemets, son arrogance, dans le vocabulaire de Ben Laden, anéantie par les avions qui allaient dans les tours jumelles, un spectacle hollywoodien d'une certaine façon. De même, là, le fait qu'une armée de va-nu-pieds, entre guillemets, ait pu détruire les frontières ultra-sécurisées, s'emparer d'otages avec une déconcertante facilité, et quelque chose qui a suscité un choc traumatique gigantesque, et qui pose aussi, qui posera également, la question de savoir qu'est-ce qui a fait qu'Israël, malgré sa réputation, a été prise au dépourvu. Ce sont toutes les questions posées sur la responsabilité de Netanyahou, l'effondrement de la fibre morale du pays au moment où la Constitution était en train d'être transformée, etc. Mais ça, nous en parlerons tout à l'heure.
Avant de passer la parole à Pierre-Jean Louisard, je voudrais d'abord souligner la différence entre la guerre de Kippour et cette attaque. Il y a effectivement dans les deux cas défaillance des services de renseignement, mais comme l'a très bien dit Eva Illouz, pendant la guerre du Kippour, les ennemis étaient encore aux frontières. Ici, ils sont à l'intérieur, dans votre cuisine ou dans votre jardin. Et puis, il s'agissait aussi, avec même la création d'Israël, de mettre fin à l'âge des souffrances et des persécutions. Et là, il y a eu des pogroms, comme si le destin juif s'abattait sur Israël même. Et d'où ce que vous avez appelé très justement, Gilles Kepel, le traumatisme. Et Pierre-Jean Louisard, quelle est votre interprétation à vous de ce qui vient de se passer ?
Alors, je voudrais dire avant toute chose qu'il est très difficile dans le contexte actuel de prendre du recul face à l'horreur et à la cruauté des actes commis par le Hamas contre des citoyens israéliens. Et pourtant, c'est la seule issue à une situation qui semble bloquée et qui conduit à la répétition de telles tragédies. On y reviendra, mais je ne pense pas qu'il y ait une vision manichéenne des bons et des méchants. Chacun a une part de responsabilité. Le problème est que dans le contexte actuel, je ne vois pas de solution viable, étant donné que, de l'avis général, la solution des deux États, un État israélien et un État palestinien, semble difficile à réaliser, étant donné l'étendue des colonies israéliennes en Cisjordanie et la situation peu enviable que vivent les Palestiniens dans la bande de Gaza, soumis à des blocus qui ne sont pas révélateurs d'une démarche démocratique de la part d'Israël, mais qui sont une démarche de guerre.
Les Israéliens se sont retirés de Gaza en 2005. Le Hamas a pris le pouvoir, a chassé l'autorité palestinienne, comme on sait, règne d'une main de fer sur Gaza, et au lieu de vouloir assurer une vie décente aux Palestiniens, le Hamas s'est lancé dans un djihad éperdu. J'ai une amie israélienne qui m'a dit « Ils auraient pu en faire un petit Singapour ». Il me semble que si tel avait été le cas, le camp de la paix serait aujourd'hui très fort en Israël. Le camp de la paix ne s'est pas relevé de la prise du pouvoir par le Hamas. Et vous parlez de blocus, Pierre-Jean Louisard. Israël a voulu desserrer les taux sur Gaza, multiplication des permis de travail, de l'argent qui circule du Qatar, etc. Mais cet argent va directement au terrorisme et il n'assure pas le bien-être des Palestiniens. Gilles Kepel.
Dans ce débat, effectivement, les choses sont complexes si on les situe dans la perspective historique. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais étudiant en Égypte, j'écrivais ma thèse là-bas dans les années 80. Il venait d'y avoir la paix israélo-égyptienne et on allait beaucoup dans le Sinaï à l'époque au bord de la mer et on traversait le canal de Suez sur une espèce de barge qu'on attendait assez longtemps et j'avais été coincé là avec le chargé d'affaires israélien au Caire de l'époque et son épouse française. On avait un peu discuté, je vais raconter. Ils s'intéressaient beaucoup à ce que je leur disais quand je faisais ma thèse sur les frères musulmans et les islamistes et j'avais été très surpris parce que le diplomate israélien m'avait dit « Mais vous savez, nous, on n'a vraiment aucune objection aux islamistes palestiniens, etc. » Et d'une certaine manière, d'emblée, Israël a souhaité affaiblir l'autorité en considérant que finalement, les islamistes pouvaient créer un autre point à l'intérieur de la Palestine pour ne pas avoir exclusivement une autorité qui bénéficiait, du fait de son caractère nationaliste et non-islamiste à l'époque, d'un certain nombre de soutiens à l'étranger beaucoup plus importants. Et vous avez évoqué, Alain, à l'instant, la façon dont Gaza fonctionnait avec, pendant le règne précédent de Netanyahou, Qatar qui, chaque semaine, envoyait un avion plein de dollars à l'aéroport de Tel Aviv, escorté par les services secrets israéliens jusqu'à la barrière d'Erez, qui a sauté à son très récemment, et ensuite que les services secrets égyptiens escortaient jusqu'au siège du Hamas, qui le redistribuait, tout ça avec la bienveillance du Mossad. Pour quelle raison ? Parce qu'il fallait maintenir une sorte de niveau de vie dans l'enclave, dans la bande de Gaza, pour éviter l'explosion démographique. Donc, si vous voulez, il y a eu dans cette affaire, et encore une fois, ça n'est pas du tout une manière de relativiser l'horreur absolue qui s'est produite récemment, mais s'est basée aussi sur une tolérance du Hamas d'une partie de l'establishment politique israélien. Je crois que la question aujourd'hui, précisément, c'est que cette politique est en train de changer et que la société, l'État israélien, son gouvernement, enfin ce qui existe avec l'unité nationale qui a été maintenant mise en place puisque Gantz a rejoint le gouvernement, c'est une volonté de faire en sorte d'éradiquer complètement Hamas et en limitant de ce qu'on appelle dans le langage horrible de la guerre les dommages collatéraux, c'est-à-dire les victimes civiles dans la bande de Gaza. C'est une gageure, je ne suis pas sûr qu'elle soit tenue. Alors, comment est-ce que les choses vont pouvoir se passer ? D'abord, il faut bien voir que on n'a pas encore fait la lumière exactement sur l'origine des événements. J'ai évoqué une hypothèse, je pense qu'elle va se confirmer tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une volonté iranienne de faire dérailler le processus. Et vous l'avez évoqué.
Mais pas
aussi.
Vraiment faire dérailler le processus de paix. Parce
non, non, enfin, avec les Saoudiens.
C'est avec les Saoudiens.
C'est les Saoudiens. Le gros morceau, c'est l'Arabie Saoudite.
Bien sûr.
Les autres,
sûr.
C'est secondaire, si vous voulez. Parce que ce qui est frappant aussi, c'est que, à mon sens, aujourd'hui, l'islamisme radical sunnite, et même l'islamisme sunnite avec les frères musulmans, ne sont pas dans une forme excellente. Les frères musulmans sont dans les choux. Le Qatar a cessé de les payer parce qu'il n'a plus besoin d'eux contre l'Arabie Saoudite. Erdogan les a fait partir de son territoire parce qu'il a besoin de l'argent des Saoudiens et des Émiratis pour juguler l'inflation en Turquie. Et ça a créé un vide qui fait que Hamas, qui veut dire en arabe, donc Harakat al-Mukawam al-Islamiyya, c'est-à-dire mouvement de la résistance islamique, qui est au départ la branche palestinienne des frères musulmans, mouvement sunnite, aujourd'hui est très largement dépendante de l'Iran, voire instrumentalisée par les Pasdaran, les gardiens de la révolution iranien. Et on peut considérer que, si telle est l'hypothèse, l'Iran instrumentalise le Hamas, il suffisait de pas grand-chose, de souffler sur les braises pour que tout s'enflamme, mais c'est aujourd'hui, avec l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, la population palestinienne qui paye le prix. L'idée, je suppose, la politique israélienne, c'est de dissocier le Hamas, c'est en tout cas ce qu'on nous martèle aujourd'hui. On veut éradiquer le Hamas complètement et ensuite on discute. Et donc, ce qui m'a frappé aussi, c'est que l'Iran, depuis la razzia, depuis l'effet extraordinaire de la razzia, considère que ça suffit. Et ils ont dit, c'est pas nous. Vous avez vu même certainement que tout récemment, avant que cette émission soit enregistrée, les autorités iraniennes au plus haut niveau ont appelé l'Arabie Saoudite pour dire on va voir comment on peut éteindre le feu. De crainte justement que l'Iran perde son relais dans la bande de Gaza à condition, mais ça va dépendre beaucoup de la manière dont se déroule la négociation. Vous voyez aussi qu'il y a des négociations autour des otages avec l'intervention du Qatar, hein, comme on l'a évoqué, pour les raisons qu'on a mentionnées, de la Turquie dans une certaine mesure. Et pour l'instant, c'est là qu'on en est, si vous voulez.
Alors, mon objet de cette émission, c'est effectivement penser l'islam politique. Là, on a un certain nombre de dévoilements. D'abord, une distinction existait entre le Hamas et Daesh. François Burga, qui est venu il y a quelque temps au micro de cette émission, m'expliquait qu'il fallait absolument prendre langue avec le Hamas, parce que sinon, on avait Daesh. Et là, on a retrouvé des drapeaux de Daesh dans les kibboutz du sud d'Israël. Et puis il y avait une autre distinction, qui était même une opposition, celle des sunnites et des chiites. Une opposition sanglante. Or, aujourd'hui, le Hamas est une sorte de Daesh, et les sunnites, les frères musulmans de Gaza, sont parrainés par les chiites iraniens. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de la réalité actuelle de l'islam radical, Pierre-Jean Luisard?
Alors, il y a beaucoup de fables qui courent sur l'islamisme et qui seraient une déviation de l'islam par son expression politique. Et il faut rappeler que, historiquement, l'islam a toujours été politique. Il a été, en tant que fondement des empires musulmans successifs, il a été notamment de l'Empire ottoman, où le sultan avait également le titre de calife, c'est-à-dire de successeur du prophète. L'islam politique n'est pas une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, c'est l'entrée de l'islam dans la modernité à travers ce qu'on appelle le réformisme musulman, qui a été une réaction à la colonisation complète du monde arabe par la France, l'Italie et la Grande-Bretagne au XIXe et au XXe siècle. Et ce qu'est l'islam aujourd'hui est en miroir inversé des valeurs progressistes issues des Lumières, notamment celle de la France, qui s'était donné pour mission de civiliser, je reprends le terme employé par Jules Ferry, les races inférieures, au nom des races supérieures qui étaient les peuples pétris de conceptions issues des Lumières et de la Révolution française. Or, les musulmans ont cru au départ à l'universalisme français avant de réaliser que ce qui était vrai en France était inversé systématiquement en contexte colonial. J'explique dans mon livre, à travers différents épisodes, pourquoi la vision musulmane de nos valeurs ne peut pas être la même que la nôtre, parce qu'ils ont été confrontés à des reniements systématiques depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte jusqu'à la division de la Syrie sur des bases confessionnelles. Ils ont été confrontés à des reniements systématiques de nos valeurs, ce qui pose une fois de plus la question des rapports entre les valeurs et les intérêts, à savoir qu'il n'y a pas d'intérêt sans valeur, et en contexte colonial, les valeurs disparaissaient au profit des intérêts de façon systématique.
Alors c'est ce qui explique, selon donc Pierre-Jean Luisard, que les printemps arabes aient permis aux islamistes de gagner les élections en Égypte, en Tunisie, au Maroc. C'était les premières élections libres. Mais en même temps, ça voudrait dire que le monde arabo-musulman est pris entre le marteau des dictatures et l'enclume des islamistes. Et est-ce que vous êtes d'accord, vous, Gilles Kepel, avec cette généalogie? Tout cela viendrait, en quelque sorte, de la colonisation. L'islamisme que nous connaissons aujourd'hui, et peut-être même cette réconciliation entre sunnites et chiites.
En partie, oui, les faits que Pierre-Jean Luisard a mentionnés sont exacts. Maintenant, je ne sais pas s'il faut tirer des conclusions pour aujourd'hui qui sont peut-être, à mon sens, un peu trop essentialistes. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la mémoire de la colonisation, elle est présente, mais je suis un peu gêné quand Pierre-Jean parle les musulmans en général, puisque on pourrait en inférer que tous les musulmans pensent de la même manière. Or, il y a une différenciation immense à l'intérieur des populations musulmanes entre ça va du spectre des, il y avait autrefois les communistes, ils sont maintenant moins présents, ils étaient très présents au monde chiite. Il y a des populations qui se sont sécularisées. Il y a ceux qui ont une conception piétiste, ceux qui sont salafistes, ceux qui sont fréristes, etc. Et il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à l'époque coloniale, c'est que autrefois le monde musulman était un monde dominé par les colonies et administré par les bureaux spécialisés français, anglais, italiens, etc. Or, aujourd'hui, l'effet des vagues migratoires a fait qu'une partie du monde musulman s'est déplacée sur le territoire des anciennes colonies, où, là encore, il y a eu des fusions qui étaient impensables à l'époque coloniale, avec, en partie, en passant par l'école et autres, et l'obtention de l'égalité des droits. Ce qui n'était pas le cas à l'époque coloniale, des carrières fulgurantes d'un certain nombre d'enfants d'immigration qui occupent aujourd'hui des positions éminentes, que ce soit en France ou peut-être même davantage encore au Royaume-Uni, où ils sont First Minister en Écosse, maire de Londres, etc. Et donc, je crois qu'il faut effectivement avoir en tête l'histoire, mais il faut aussi adapter cela avec les bouleversements contemporains. Et on ne peut pas simplement induire, de façon, si je puis dire, mécanique ou historiciste, le passé pour comprendre ce qui se produit aujourd'hui. Et c'est toujours très important de voir, c'est pour ça qu'on a commencé au début en disant, bon, 7 octobre 73, 7 octobre 2023, 50 ans, parallélisme, etc. C'est vrai. Mais entre-temps, arrive Daesh. Daesh n'est pas simplement le produit de la colonisation. C'est aussi le produit des réseaux sociaux, des médias. Ça parle le langage et ça utilise des instruments qui sont ceux de la mondialisation. Donc, on n'est plus exactement dans la logique coloniale. Et au fond, je pense aussi que la question coloniale est aujourd'hui instrumentalisée par ceux qu'on appelle les décolonialistes, les indigènes de la République et une partie du mouvement woke venu des États-Unis, pour justifier un certain nombre de revendications qui n'ont plus grand-chose à voir avec la question coloniale à proprement parler. Donc, autant je pense qu'il faut tout à fait intégrer ces notions dans notre réflexion, autant il me semble qu'elles doivent être mises en perspective avec d'autres enjeux contemporains.
Pierre-Jean Luisard.
J'ai toujours eu conscience du piège du déterminisme historique et je ne pense pas être tombé dedans parce que une grande partie des institutions, notamment le système étatique arabe, est directement issue de la colonisation et j'en veux pour illustration le fait que des États comme l'État irakien, l'État syrien, l'État libanais, sans parler d'Israël, ont été fondés sur des bases qui privilégiaient les minorités et qui sont à l'origine des printemps arabes et des régimes autoritaires qui se sont succédés, puisque la férule des minorités n'a jamais réussi à intégrer les majorités qui, du coup, se sont tournées vers les frères musulmans pour les sunnites et vers le mouvement islamiste chiite pour les chiites. Il y a peu de régions au monde où l'histoire est aussi prégnante et j'en veux pour preuve le fait que le confessionnalisme politique tel qu'il existe de façon officielle au Liban et de façon officieuse en Irak, est directement mis en cause comme résultat de la colonisation par les manifestants contre les gouvernements en place.
Oui, mais alors, un mot encore sur cette généalogie. Vous dites le colonialisme, mais vous citez l'un et l'autre, Gilles Kepel et Pierre-Jean Luisard, l'idéologue des frères musulmans, Saïd Qutb. Je vous laisse le dire, vous le dites mieux que moi. Merci Gilles Kepel.
Et Pierre-Jean, on est tous les deux.
Alors,
et
oui, vous êtes... L'idéologue des frères musulmans n'a pas été traumatisé par le joug colonial, mais lors d'une mission pédagogique aux États-Unis, entre 1948 et 1950, par le spectacle intolérable de cette liberté bestiale qu'on nomme la mixité, de ce marché d'esclaves nommé émancipation de la femme, de ces ruses et anxiétés d'un système de mariage et de divorce si contraire à la vie naturelle. Il décrit ainsi l'organisation par les églises protestantes de bals où les individus des deux sexes se rencontrent, se mélangent, se touchent, la danse s'enflamme sous les notes du gramophone, la salle de bal se transforme en un tourbillon de talons et de cuisses, de bras étreignant des hanches, de lèvres effleurant des poitrines, l'air s'emplit de lubricité. Et c'est ce séjour américain suivi d'un voyage en Angleterre, en Suisse et en Italie qui a affermi sa foi. Donc c'est aussi le spectacle d'un Occident décadent, et notamment de la mixité dans le monde occidental, qui a déterminé le discours des frères musulmans. Il faut aussi compter cela. Pas seulement l'impérialisme exercé par l'Occident et l'humiliation occidentale.
Les frères musulmans étaient divisés entre eux. Il y avait une tendance quiétiste qui était favorable à une réislamisation de la société et qui prônait un éloignement de la politique, qui était le mouvement qu'on appelait salafiste, qui s'est réveillé à la faveur des années 70 et 80 par les guerres en Afghanistan. Et il y avait la tendance koutbiste, qui était une réaction à la cruauté de la répression nassérienne.
Oui, mais
je crois que, si je peux dire, il y a aussi un élément. Pierre-Jean Luisard a basé l'essentiel de son argumentaire tout à l'heure sur les pays du Levant, dans lesquels, effectivement, il y a une fragmentation minoritaire immense, en Syrie, en Irak, au Liban notamment, et qui a été l'un des éléments qui a nourri dans l'évolution des printemps arabes la guerre sunnite-chiite notamment, la résilience du système alaouite qui a permis à Bachar al-Assad de conserver le pouvoir contrairement à d'autres pays. Mais le monde musulman et même le monde arabe ne se réduit pas au Levant et à sa fragmentation communautaire, avec d'ailleurs les minorités qui aujourd'hui votent avec les pieds et qui fuient cette région de plus en plus. Les chrétiens disparaissent de la région, par exemple. On a vu ce qui est arrivé aux yézidis, on voit aussi ce qui est en train de se profiler malheureusement pour les Kurdes. Mais les grands pays du monde musulman, en termes démographiques, c'est l'Égypte, où là la minorité copte n'a pas véritablement son mot à dire politiquement. Et puis, ce sont évidemment les pays de la péninsule arabique, où le sunnisme est absolument dominant, même s'il y a des minorités au Yémen, en Oman et au Bahreïn.
Majorité
au Bahreïn, oui, enfin minorité à l'échelle de la péninsule, bien sûr. Mais pour Qutb, alors ces pages effectivement sont tirées du voyage de Sayyed Qutb en Amérique. Sayyed Qutb, c'est le principal idéologue de ce qui va être l'islamisme politique militant, et j'ai consacré d'ailleurs de beaucoup de pages. Il était à l'époque très peu connu en Occident dans ma thèse « Le prophète et Pharaon », un livre qui date des années 80. Et c'est effectivement quelque chose où, finalement, c'est pas tellement la colonisation qui le préoccupe, c'est plutôt la volonté de lutter contre le nasserisme, contre la violence d'un nasserisme, alors d'inspiration peut-être soviétique, en tout cas avec l'aide de l'URSS à l'époque, et la nécessité de construire un combat contre le nasserisme, parce que, selon lui, les indépendances ont été récupérées par des mouvements qui, en réalité, s'inspiraient d'idéologie, entre guillemets, européenne ou occidentale, le socialisme, le marxisme et autres, le nationalisme, et qu'il faut revenir à une norme islamique, de l'islam politique tel que le décrivait Pierre-Jean Luisard tout à l'heure. Mais moi, il me semble que aujourd'hui, on fait état surtout du combat anticolonial, et c'est ce que nous serinent les indigènes, l'université est pleine de ça, on n'en a plus que ça, moi. Les enseignements sont supprimés pour les remplacer par des cours sur le décolonialisme, l'école normale supérieure. Mais en réalité, ça occulte complètement la lutte que les islamistes ont menée à la fois contre l'oppression des régimes indépendants qui étaient totalement anticoloniaux, évidemment, et également contre la gabegie et l'effondrement total de l'économie, de la morale, etc., qui avait été la résultante de l'indépendance. Alors, une indépendance dont on dit aujourd'hui « Ah, mais elle a été mise en place par les colons pour garder du pouvoir ». L'Égypte nassérienne n'est pas l'exemple d'un pays où on a mis en place des structures qui allaient maintenir le siège-voix. Le regretté André Michel, qui nous a quittés cette année, qui était professeur au Collège de France, était parti en Égypte dans les années 60, a été mis au trou au Caire jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie pour espionnage, etc. Et il raconte avec beaucoup de lucidité ce qui lui est arrivé à cette époque-là. Donc je crois qu'il faut mettre les choses un peu plus en perspective aussi à l'intérieur des sociétés musulmanes. De même qu'il n'y a pas de musulmans en général dans les sociétés européennes, il y a toutes sortes de gens qui sont de confession musulmane, qui ne le sont pas, qui l'ont abandonné, qui y reviennent, qui se convertissent, je ne sais quoi. De même, je crois que dans les pays musulmans eux-mêmes, entre guillemets musulmans, il y a aussi des conflits internes contemporains qui prévalent sur le legs du passé. Et que l'usage du passé qui est fait aujourd'hui, notamment dans les campus américains et dans la plupart des nôtres, malheureusement, est une manière d'obnubiler au sens propre, c'est-à-dire d'envoyer des nuages de fumée pour exonérer un certain nombre des élites musulmanes, entre guillemets, qui ont pris le pouvoir depuis l'indépendance, de leurs errements, de leurs catastrophes, de leurs cruautés et de leurs échecs économiques.
Pierre-Jean Louisard.
Alors, je crois qu'on peut solliciter l'histoire sans pour autant reprendre les a priori des indigènes de la République. Il y a eu un mouvement d'ensemble qui a transcendé toutes les divergences entre musulmans. C'était la conception réformiste qui a pris pour cible le culte des saints et un certain soufisme dévotionnel. Et l'islam que nous connaissons aujourd'hui est très largement le fruit d'une transformation dans les années 1920-1930 des fondements de la religion musulmane, d'une religion traditionnelle qui vivait dans une forme d'atemporalité vers une religion moderne où la sécularisation se faisait par la religion et non pas conjointement avec la laïcité telle qu'en Europe. Et ce mouvement d'ensemble fait que les musulmans vivent une religion de façon schizophrénique. Ils respectent l'idéologie dominante qui est l'idéologie réformiste, à savoir la diabolisation du culte des saints, tout en reprenant au quotidien ce qui fait le côté spirituel du culte des saints et du culte des tombeaux. Et j'ai pour souvenir comment les grands moulets d'Égypte étaient réalisés d'une façon presque fautive par les participants qui avaient conscience du fait de contredire la vision officielle de l'islam qui est celle des oulémas héritée de ce réformisme musulman qui est devenue l'idéologie dominante.
Mais il y a aussi une diabolisation en islam de l'Occident, et particulièrement d'Israël. Jean Genet, qui est un peu, dans 1986, le captif amoureux, qui est un peu le poète annonciateur de l'islamo-gauchisme, définit Israël au Moyen-Orient comme un bleu, une ecchymose qui s'éternise sur l'épaule musulmane. Et on voit que dans le monde arabo-musulman, la razzia du Hamas n'est pas condamnée. La rue arabe lui semble plutôt favorable et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, se tait. Olaf Scholz, le chancelier allemand a parlé d'un silence honteux, mais dans une situation où s'il parlait, il perdrait le petit crédit qui lui reste. Donc c'est quand même une situation particulièrement terrible. Et les questions qu'on peut se poser aussi, c'est quelles vont être les retombées en Europe, et notamment en France, où il y a évidemment les musulmans ne doivent pas être, si vous voulez, essentialisés. Mais vous parliez des indigènes de la République, voici leur message porté sur Twitter, que la résistance palestinienne qui mène son action avec détermination et confiance dans des conditions héroïques reçoive en ces heures terribles toute notre fraternité militante, la Palestine vaincra et sa victoire sera la nôtre, gloire à la résistance palestinienne. On peut s'inquiéter des répliques éventuelles de ce qui vient de se passer, aussi bien dans le monde arabe qu'en France, parce que l'Arabie Saoudite est coincée. Si elle se rapproche d'Israël maintenant, c'est sa population qui risque de le faire payer aux dirigeants saoudiens.
Alors je voudrais d'abord qu'on règle le problème du Genet. Hein, les images organicistes sont peut-être celles du poète, mais en l'occurrence, bon, Genet a d'autres qualités. C'est sans doute pas quand il a été pris par l'idéologie qu'il a été le meilleur. Pour ce qui est de la question du salafisme, sans faire un saut d'érudition, j'aurais complété ce qu'a dit Pierre-Jean Luisard tout à l'heure. Les salafistes sont en guerre contre le soufisme, la superstition, etc. Mais ils sont également des gens qui ont marqué une rupture extrêmement radicale avec tout ce qui n'était pas le dogme islamique tel qu'il l'avait pris en otage. Et c'est ce qu'on appelle en arabe, et c'est très important aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe, y compris avec les exactions de Daesh ou ce qui se passe aujourd'hui avec Hamas, la doctrine qu'on appelle en arabe « el-wala ou el-bara ». Qu'est-ce que ça signifie ?« El-wala », ça veut dire l'allégeance. L'allégeance exclusive à la norme islamique telle qu'elle a été codifiée par le salafisme dans sa dimension la plus rigoriste, la plus extrême. Pas de soufisme, pas de, vraiment l'obéissance à tout ce qui est le plus littéraliste dans la religion. Et el-bara'a, alors dans le charabia des traductions, on appelle ça se désavouer d'avec.
C'est l'allégeance et le désaveu.
Voilà, l'allégeance et le désaveu, c'est-à-dire le désaveu par rapport à quoi ? Par rapport à toutes les normes qui ne sont pas islamiques. En d'autres termes, et c'est le problème qui se pose en Occident aujourd'hui, quand Daesh faisait, souvent des histoires de convertis qui sont passés par Daesh, racontent comment ils ont fait l'allégeance et le désaveu. C'est-à-dire que les lois de la République ne valent rien. Le Conseil d'État n'en a rien à faire, c'est la charia qui prévaut. Et donc là, on est dans une situation de rupture qui, à mon sens, n'est pas oublier complètement l'affaire coloniale. Hein, Pierre-Jean Luisard et moi appartenons à la génération qui est née dans les années 50. Aujourd'hui, on parle de jeunes qui, pour qui tout ça, c'est vraiment très très loin. Et c'est essentiellement, effectivement, la désignation, d'une part, du mécréant, comme quelqu'un s'appelle kafir en arabe, ce qu'on appelle gouer ou gauri aujourd'hui en Afrique du Nord et en immigration, musulmane en France, c'est-à-dire celui qui est considéré comme n'acceptant pas la loi et qui, dans l'extrémisation du propos de l'islamisme radical, et son demo malo halal, c'est-à-dire son sang comme ses biens sont licites, c'est-à-dire on peut le mettre à mort, on peut piller et faire du butin. Quant au, et c'est là que c'est encore peut-être plus important, celui qu'on va qualifier selon ces normes-là d'apostat, c'est-à-dire tout musulman, mortad en arabe, tout musulman qui ne suit pas la norme du salafisme, lui c'est encore pire, il est, on peut le mettre à mort, et immédiatement parce que l'autre peut encore éventuellement découvrir la foi. Le kafir asli, le mécréant entre guillemets original. Or, c'est ce qu'on a vu avec Daesh quand Mohamed Merah tue les soldats musulmans, c'est parce qu'ils ont apostasié selon lui, et ensuite il va tuer les juifs qui sont la symbole de la mécréance selon lui, qui ont falsifié leurs écritures à l'école Ozar Hatorah de Toulouse. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui a été en grande partie récupéré par le vocabulaire de Hamas. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de la razzia tout à l'heure ? Parce que l'expression en arabe qui désigne le 11 septembre, c'est « el razwatayn el mubarakatayn », c'est-à-dire la double razzia bénie. qui va avoir un effet de sidération, non seulement sur l'ennemi occidental supérieur militairement, mais également sur les populations du monde musulman, en dénonçant tous ceux qui seraient tentés de passer, entre guillemets, à l'apostasie, c'est-à-dire de mettre à distance la charia dans sa conception la plus radicale, telle qu'elle est portée par ceci. Et là, c'est un problème qui se pose aujourd'hui, il faut bien le dire, dans la diaspora. Et qui, pour les générations plus anciennes, avait été d'une certaine manière mis sur la touche parce que le rôle, en France en particulier, de l'école émancipatrice avait permis donc à des gens qui ont notre âge ou qui sont un peu plus jeunes, les enfants des immigrés kabyles d'Algérie, marocains, tunisiens et autres, de d'avoir pour un certain nombre d'entre eux des carrières, une émancipation extraordinaire qui s'est traduite très souvent du reste par le mariage en dehors de la communauté d'origine et la nuptialité en dehors de la communauté dans les deux sens, qui était considéré comme un tabou absolu parce que c'est la perte communautaire. Et aujourd'hui, du fait aussi de la variation des démographies, de la perte de substance de l'école de la République, de la prolétarisation du milieu enseignant envoyé au casse-pipe, les hussards noirs aujourd'hui n'ont même plus de quoi se racheter des uniformes, on a quelque chose qui s'est profondément transformé et s'est répandu cette idéologie de l'allégeance et du désaveu ou de la rupture qui pose un très gros problème. Alors qui va récupérer le bric-à-brac de la critique anticoloniale, mais qui est également très branché sur les enjeux contemporains. Et la question, je termine là-dessus, c'est de savoir dans quelle mesure les images épouvantables qu'on vient de voir en Palestine, enfin en Israël, et qu'on va voir aussi en Palestine avec les bombardements et les gens qui vont mourir probablement aussi, vont avoir une répercussion, un effet d'écho sur nos sociétés. Je crois que c'est l'inquiétude des autorités françaises. Notre émission est enregistrée avant les propos du président de la République, sera diffusée après, donc on ne peut pas préjuger ce qu'il va dire, mais c'est ce qu'on nous annonce qui sera dit. Et c'était bien sûr un élément très important dans lequel la capacité de penser les enjeux contemporains est très importante. Et permettez-moi de dire que l'effondrement aujourd'hui de notre université, le fait que ceux qui ont un minimum de compétences en arabe, etc., sont foutus à la porte pour que, à la place, on enseigne l'idéologie, me semble être une catastrophe face à des enjeux comme celui-ci.
Oui, d'ailleurs, vous en parlez dans Prophète en son pays, Gilles Kepel. Mais justement, Pierre-Jean-Louis...
Je voudrais rebondir sur la véracité de la prégnance coloniale, sur les rapports notamment entre les jeunes juifs et les jeunes musulmans, qui sont des rapports tendus. Sur le fait que l'histoire les a opposés, notamment l'histoire de la Troisième République, qui a inventé le statut de sujet français pour les musulmans, là où les juifs, grâce au décret Crémieux, devenaient citoyens français.
En Algérie, ça, non ?
En Algérie.
Pas au Maroc, ni en Tunisie. Oui.
Les sujets français n'avaient pas le droit de vote et étaient soumis à un certain nombre d'obligations, et c'est cette mémoire différentielle d'un traitement confessionnel par une république qui se voulait laïque, qui est un ressenti...
Vous pensez que c'est pour ça que les élèves musulmans persécutent les élèves juifs dans les écoles les obligent à les quitter? Vous pensez que c'est à cause d'une Crémieuse?
C'est un ressenti parce que les uns sont français depuis plus d'un siècle, citoyens, tandis que les autres sont restés sujets pratiquement jusqu'à l'indépendance.
Ah bon?
Moi, j'y crois pas beaucoup parce que je pense que ça ne concerne d'une part que les Algériens, et il n'y a pas que des Algériens en France, il y a aussi des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des gens d'ailleurs pour lesquels ça ne s'appliquait pas. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu un effet de notre génération et puis peut-être de notre érudition de penser ça, parce que, à mon avis, pour les jeunes d'aujourd'hui originaires de l'immigration maghrébine ou autre, le décret Crémieux, ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça signifie, et je ne suis même pas sûr que ça signifie quelque chose pour leurs parents. À partir du moment, les enjeux de nationalité ont été très différents. À partir du moment où les Algériens arrivent en France en 1962, depuis lors, du fait que leurs parents étaient nés dans la France d'avant 60, dans l'Algérie d'avant 62, qui était française, ils ont la nationalité française à la naissance. Mais ce sont les parents qui vont refuser qu'ils aient la nationalité, qui vont leur faire avoir une carte de résidence, et non pas la carte d'identité française à laquelle ils ont droit. Pourquoi? Parce que il y a ce sentiment qu'on n'a pas fait la guerre à la France et en la chassant d'Algérie pour prendre sa nationalité, ce serait perçu comme une apostasie. Et en fait, il y a une dimension, me semble-t-il, si on peut mettre les choses en perspective, mais on peut évoquer effectivement la question Crémieux, mais elle s'est totalement inversée et elle a vu ensuite comment, au fond, il y avait un refus à l'identification française porté par des parents qui étaient arrivés ici, que les enfants, finalement, ont surmonté très largement.
Alors justement, Pierre-Jean Louisard, comment expliquer s'il y a eu cette blessure, cette humiliation, qu'après l'indépendance, un nombre très important d'Algériens ait choisi de vivre en France, ce pays colonial? Pourquoi? Parce que, si vous voulez, après, Bouteflika a parlé de génocide à propos de la guerre d'Algérie, après la Shoah, les Juifs ne se sont pas précipités en Allemagne. Donc il y a là quelque chose d'un peu surprenant, une telle animosité accompagnée d'un tel désir de vivre dans le pays qu'on déteste.
Mais c'est que la France a laissé l'Algérie dans une situation économique qui ne permettait pas...
Ah, c'est la France. Oui. Avec la manne pétrolière, c'est la France.
Avec la manne pétrolière qui a été utilisée par un régime autoritaire.
Ah bah oui, mais c'est pas la faute des Français, ça.
Les Français ont surtout combattu l'islam depuis l'islam en Algérie. Et on favorisait les tendances laïques ou laïcisantes, de la même façon qu'ils avaient favorisé Bourguiba en Tunisie contre le mouvement religieux.
Ils ont eu raison en Tunisie, non?
Ils ont eu raison, sauf que ça aboutit au printemps arabe, où on a vu le régime autoritaire dévoiler sa face, si vous voulez. Il y a eu une offensive laïque depuis Mustafa Kemal en Turquie au début des années 1920, qui a laissé des traces et qui explique pourquoi l'un des slogans des islamistes est « la laïcité est l'arme des nouveaux croisés ».
Mais alors, quelle peut être, à votre avis, Pierre-Jean Louisard, l'attitude de la France aujourd'hui face à une partie de la population musulmane blessée, humiliée, comme vous le dites? Qu'est-ce que la France pourrait faire pour éviter le séparatisme et, pire encore, un regain du terrorisme? Thierry de Montbrial disait l'autre jour que les chances que le terrorisme revienne en France ont été multipliées par ce qui vient de se passer à Gaza.
Je crois que c'est son fils, c'est Thibault de Montbrial qui a dit ça. C'est pas Thierry, c'est l'avocat.
C'est Thibault de Montbrial, pardon.
Thibault de Montbrial. Je dirais qu'il faut à tout prix échapper au piège de la victimisation de part et d'autre qui ne conduit qu'à l'affrontement et à la haine. Et pour cela, cesser un déni de notre histoire qui empêche de comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas du déterminisme historique. Alors c'est vrai que je parle surtout du monde arabe et du Moyen-Orient levantin, mais une grande partie des conflits actuels trouvent leurs racines dans la mise en place d'institutions, notamment étatiques, qui se sont faites contre les majorités, en privilégiant des minorités qui n'ont pas voulu céder le pouvoir ou s'orienter vers une forme de libéralisme. Au contraire, on a vu les régimes autoritaires se succéder, que ce soit en Algérie, en Tunisie, en Irak ou en Syrie, et les États proches de la faillite, comme c'est le cas au Liban, en Irak et dans un certain nombre d'autres pays, comme la Libye, qui sont des créations coloniales.
Bien, alors, Gilles Kepel, une toute dernière question. La réponse devra être brève, malheureusement. Dans votre livre, vous parlez de la congruence étonnante entre la marginalisation croissante dont vous avez été, à laquelle vous avez été condamné par le monde académique et l'élimination physique prônée par les djihadistes. Vous avez été sous protection policière. Alors, vous avez 30 secondes pour m'expliquer cette congruence, Gilles Kepel.
Écoutez, oui, à l'occasion de l'affaire de Magnanville, qui vient d'être jugée, justement, et le complice a été condamné à la perpétuité avec 22 ans de sécurité. Effectivement, aujourd'hui, il est assez difficile, dans l'université française, de tenir un propos analytique et explicatif sur le monde musulman. Vous avez vu que, en dépit de la longue ancienne amitié que j'ai pour Pierre-Jean Luisard, avec qui nous avons commencé nos études arabes, nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de points, mais notre démarche s'est exprimée sur des bases solides à partir de la connaissance que nous avons accumulée les uns avec l'un comme l'autre. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible, le débat n'est plus là. Le débat, c'est entre l'idéologie et l'analyse des faits et la sociologie politique. Et je crois que c'est une chose absolument dommageable. Les enjeux sont énormes. Quand on me dit que j'appartiens au passé et que ce que je raconte n'est plus pertinent aujourd'hui, j'oppose ce qui vient de se passer en Israël et en Palestine. Et je crois que nos gouvernements seraient bien inspirés de mettre le nez dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement supérieur français. Appel au président de la République et à ses conseillers. Merci.
Très bien. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Votre livre « Prophète en son pays » est publié aux éditions de l'Observatoire. Pierre-Jean Luisard, vous avez publié « La République et l'Islam aux racines du malentendu » chez Talendier. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Fiong Mai Tran. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Oppenheimer, la science et la bombe ». Mes invités seront Étienne Klein et Jean-Pierre Dupuis, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.